la préfectance de la madame, et l'on ne perdrait rien en connaissance de cause. Il est
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir qui va commencer dans une minute avec André Bitton du CRPA, le Cercle de réflexion et de propositions d'action sur la psychiatrie. C'est une émission qui a été enregistrée hier et il va être question de quatre choses. La sortie du dernier livre écrit par le docteur Bertolt Behrens de Haan, ce psychiatre qui a traversé l'époque de l'antipsychiatrie des années 70, relate sa carrière dans la psychiatrie et dans les luttes qu'il a menées pour les droits des patients, titre de son ouvrage « Lettres d'amour et de désamour à Genève ». Deuxième point, le psychiatre Mathieu Bellassène, reconnu lanceur d'alerte officiellement. Troisième point, le projet de loi sur l'aide à mourir et l'euthanasie revient sur la table en mai à l'Assemblée nationale. Et le Premier ministre sépare ce projet en deux. D'une part, un texte sur les soins palliatifs et d'autre part, un texte sur l'aide à mourir. Et enfin, quatrième point, des paquines, la responsabilité de l'État français est engagée dans le scandale de la dépakine. Et voilà, eh bien, bonne écoute de cette émission avec Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour, et aujourd'hui, c'est avec André Bitton du CRPA, le Cercle de
réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie. C'est un titre kilométrique et je n'avais pas trouvé plus long. C'est pour ça qu'on l'avait adopté. Des fois, on a des raisons bêtes et bonjour, stupides. André.
Alors, au sommaire de l'émission, il y a toute une revue de nouvelles autour du juridique et de la psychiatrie.
Alors, je vais te donner une table des matières. Alors, tout d'abord, j'ai parlé du dernier livre d'un psychiatre qui est âgé maintenant, qui a été très combatif pour les droits des patients en psychiatrie, en l'espèce à Genève, par un article de presse de la Tribune de Genève publié récemment le 21 février, le docteur Behrens de Haan, qui publie un bouquin sur sa carrière dans la psychiatrie, sa carrière dans les luttes qu'il a menées pour les droits des patients. Il a été parmi les développeurs et les initiateurs de l'Association pour les droits des usagers de la psychiatrie à DUPSY, dont le leader a été malheureusement liquidé lors d'un réinternement en 1978, ce qui avait soulevé un véritable scandale. Alors ça, d'une part. D'autre part, les jugements favorables du 13 février passé, du tribunal administratif de Cergy Pontoise, qui donne gain de cause sur toute la ligne au docteur Mathieu Bellassène par rapport à son éviction de la chefferie de pôle en juillet 2021 à l'hôpital de Moisselles-sur-Anière. Bien. Et donc, je reviendrai là-dessus, avec une dépêche synthétique complète d'Ospimédia du 19 février, et un article héroïsant, mais enfin bon, c'est le monde, du 19 février, de Camille Stromboni et de Luc Bronner, sur cette affaire. Et j'ai également les deux jugements en question dont il a été fait appel par la direction de l'EPSM Roger Prévost de Moisselles. Par ailleurs, une dépêche d'Aspimédia et d'autres articles de l'AFP notamment nous font savoir que le projet de loi sur l'aide à mourir, donc de légalisation de l'euthanasie, va revenir en mai à l'Assemblée nationale. Mais le Premier ministre a décidé de séparer en deux ce projet de loi, ou la proposition de loi, avec d'une part les soins palliatifs sur un texte distinct, et l'euthanasie ou l'aide à mourir sur un autre texte. Et l'aide à mourir, malheureusement, incluait, depuis le mois de juin 2024, avant la dissolution, parmi les personnes habiles à demander l'euthanasie, les personnes avec handicap psychique et handicap mental grave. C'est quand même un comble, parce que faciliter la pente, un genre d'élimination, vraiment. Alors, d'autre part, une analyse de Dalloz Actualité du 3 février nous fait savoir que par une série de décisions de la Cour administrative d'appel de Paris, dans l'affaire de la dépakine, du valproate de sodium, donc des risques, des grossesses avec malformations et autres de femmes ayant eu cet antiépileptique dont le principe actif est le même que pour les thymorégulateurs de type dépamide ou dépakote. Donc, la Cour administrative d'appel de Paris considère que la responsabilité de l'État en raison d'une carence fautive de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé est engagée dans la mesure où il n'y avait pas une information incluse dans l'autorisation de mise sur le marché de la dépakine. Donc voilà, c'est la revue de presse en question. Alors voyons, la Tribune de Genève nous fait savoir pour le docteur Bierens de Haan que celui-ci, qui est un psychiatre en fin de carrière, a notamment fait carrière à un moment donné en 75 à la clinique Bel Air à Genève, et c'est là que ce médecin psychiatre se frotte à la réalité d'un hôpital psychiatrique. Il y entre sous la direction du professeur Julian de Ajuria-Guerra, puis s'y trouve plongé en 1977 dans une affaire retentissante. Le nouveau directeur René Tissot a ordonné des électrochocs à une manifestante antinucléaire, déchaînant l'indignation d'une partie de l'opinion et celle de Bierens de Haan et d'un de ses collègues. Ils sont renvoyés de cette clinique de Bel Air, mais les électrochocs aussi. Donc les psychiatres sont certes renvoyés, mais ils ont obtenu que les électrochocs soient mis à l'écart. L'auteur a choisi son camp. Son engagement l'entraîne à fonder avec d'autres l'Association pour les droits des usagers de la psychiatrie, à Dupsy, à Genève. Un de ses membres mourra à Bel Air en 1980, à l'âge de 27 ans, au cours d'une cure de sommeil. Exemple fatal, accuse Bartold Bierens de Haan, des méfaits des médicaments psychotropes. Il a été dénoncé clairement que ce leader usager a été liquidé. Pour un réinternement, sur la fiche Wikipédia sur Adupsy, en tout cas c'est ce qui est mis, et qui s'en est ensuivi un véritable scandale avec une demande de réhabilitation. À ces deux affaires anciennes, le psychiatre ajoute dans son livre le fruit d'autres expériences faites lors de ses missions pour le CICR, donc la Croix-Rouge, ou au contact de ses patients à Paris, ou encore dans sa propre vie privée, toujours en quête d'écoute, de compréhension et de respect de ses chers perchés. Ses patients, il les appelle perchés. Bon, enfin, voilà. Donc, en tout cas, cette nouvelle est là. Et donc, ce dernier bouquin, Lettres d'amour et désamour en Genève, à Genève, publié en 2020 chez Slatkin. Alors, revenons à l'affaire de Mathieu Bellassène. Alors, par jugement du 13 février 2024, deux jugements. L'un sur la déposition du docteur Mathieu Bellassène de Sacha Fridpol sur Asnières le 7 juillet 2021 sur décision de la directrice de l'époque de l'EPSM, Roger Prévost de Moisselle, Madame Luce Legendre, après avis de la commission des usagers et des instances de cet hôpital, sachant que dans les instances siège le président de l'UNAFARM 92, qui est très très contre l'autonomie des malades, etc. Pour lui, Michel Girard, les schizophrènes ne peuvent pas se représenter eux-mêmes. Bon, ça j'ai... Donc, le premier jugement, c'est donc contre... il annule cette déposition au motif qu'il s'agit d'une sanction déguisée. La déposition de Sacha Fridpol avait été prise par Mme Luce Legendre suite à tout un scandale relatif au fait que Mathieu Bellassène avait déclenché une inspection par le contrôle général des privations de liberté au moment du confinement, et qu'Adeline Hazan avait fait, la contrôle générale des privations de liberté, avait fait publier au JO une alerte retentissante sur le fait qu'il y avait, lors du confinement, et notamment à Moisselles, où ça avait été décelé par Mathieu Bellassène, une confusion entre l'isolement psychiatrique et l'isolement sanitaire.
Oui.
Et bon, il y a eu une abondante couverture de presse là-dessus. Et suite à cela, des membres de son équipe l'avaient dénoncé anonymement pour sa façon d'exercer sa chefferie de pôle, en disant que l'ambiance était toxique, qu'il était bon, etc., etc. Et donc la direction s'en était servie pour monter une enquête administrative interne, bien, et au demeurant peu contradictoire, et pour éviter d'utiliser les modalités de sanctions prévues contre les praticiens des hôpitaux, qui sont compliquées, parce que lorsqu'il y a des fautes disciplinaires ou des fautes lourdes permettant à une direction d'hôpital de dessaisir et de faire sanctionner un médecin titulaire d'un hôpital, c'est le Centre national de gestion qui fait les carrières hein, des cadres des établissements hospitaliers, qui doit être saisi. Le Centre national de gestion doit saisir l'Agence régionale de santé, également la direction de l'hôpital, avec toute une procédure longue et contradictoire qui ouvre des possibilités de recours à peu près à tous les niveaux. Mmh. Alors, pour simplifier les choses, en l'espèce, Mathieu Bellassène avait été déposé de sa chefferie de pôle pour des raisons de service. C'était un aménagement pur et simple.
Oui.
Voilà. Donc, c'était par commodité. Et le tribunal administratif reconnaît qu'il y a eu là un détournement de procédure, puisqu'en réalité, et ça avait été reconnu en cours de procédure, notamment par le fait que le défenseur des droits avait pris, en faveur de Mathieu Bellassène, une décision du 7 juin 2024, qui est publié sur le site du CRPA, reconnaissant à Mathieu Bellassène d'avoir été en l'espèce un lanceur d'alerte, au sens légal, et reconnaissant qu'en fait, le défenseur des droits reconnaissait que, en fait, dans cette affaire, Mathieu Bellassène et les cadres dirigeants de son secteur avaient été sanctionnés pour avoir émis une alerte efficace auprès du contrôle général des privations de liberté, ce qui avait provoqué une recommandation en urgence publiée au journal officiel, une couverture de presse et un discrédit pour cet hôpital. Bon. Donc en fait, il s'agissait bien d'une sanction déguisée. Mais la direction avait pris le chemin le plus court et le moins procédural pour déposer son agent gradé et démanteler son service. Parce que le mieux, c'est que... Alors, Mathieu Bellassène avait eu d'autre part une pétition en sa faveur de médecins de cet hôpital, siégeant auprès de la commission médicale d'établissement, et d'une quinzaine de patients de son secteur, dont d'ailleurs, moi j'avais signé en tant que président du CRPA, parce qu'on avait postulé précisément pour que certains de ces patients soient désignés au titre de la représentation des usagers dans la commission des usagers, ce qui avait été refusé. Donc voilà, donc on était là. Donc en fait, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, prenant en compte tous ces éléments, considère qu'en effet, il s'est agi d'une sanction déguisée et que la direction de l'hôpital ayant détourné la procédure en utilisant une procédure inadéquate pour déposer ce chef de pôle, a pris une décision irrégulière et fautive qui est annulée. Alors, l'hôpital, du coup, a fait appel, mais l'appel n'étant pas suspensif devant les juridictions administratives, l'addition est exécutoire. Alors, d'autre part, le tribunal ordonne la réintégration dans son poste et au même grade, et dans les mêmes responsabilités de Mathieu Bellesen. Mais simplement, cet hôpital qui est en cours de fusion avec le CAGE de Nanterre, le centre de Nanterre, le centre hospitalier de Nanterre, a pris la décision de fermer ce secteur. Donc, Mathieu Bellesen ne peut même plus être réintégré sur le même secteur. Son service a été fermé. Et la direction, c'est-à-dire les deux sites ont été fusionnés, et sous la direction de Michel Triantafilou, qui est un psychiatre qu'on voit essentiellement dans les arcanes du ministère de la Santé, pas tellement au chevet des malades. Ce qui n'est pas très pratique. Il n'est pas très pratique d'avoir des psychiatres connus comme chef de pôle, on ne les voit pas souvent. Bon. Donc, alors, d'une part, et un autre jugement en parallèle, il se trouve qu'en cours d'instruction dans l'enquête administrative interne à Moisselle, des agents de son service avaient témoigné anonymement contre Mathieu Bellesen en vue qu'il soit dégagé, et notamment parce que Mathieu avait commencé à développer d'abord un journal autonome géré par les patients et tout dans le CATTP d'Asnières, et d'autre part avait envisagé la création à partir du CATTP d'Asnières d'un groupe d'entraide mutuelle. Or, un tel groupe d'entraide mutuelle aurait pu remettre en question les affectations de poste et le poste de travail de certains agents, lesquels ont protesté contre cette autonomisation de certains patients. Hein. Donc, en fait, il avait, trouvant les propos diffamatoires et pour le moins problématiques, il avait demandé à ce que la protection fonctionnelle lui soit accordée, c'est-à-dire que l'hôpital accepte pour protéger son agent de lui payer les frais de procédure, donc les frais d'avocat. Oui. Donc, et alors, le tribunal administratif, l'hôpital avait refusé, et le tribunal administratif, pour les mêmes motifs que pour sa précédente décision, annule le refus d'accorder par l'hôpital la protection fonctionnelle à Mathieu Bellesen, avec une phrase sibylline, en disant qu'il faudra que la direction de l'hôpital, selon des modalités qui restent à discuter, lui accorde cette protection fonctionnelle par rapport aux agents en question. Si bien que l'hôpital est condamné, en quelque sorte, à accorder cette assurance et cette paierie des honoraires à Mathieu Bellesen pour que Mathieu Bellesen soit protégé de l'hôpital, de sa direction, et des agents que la direction de l'hôpital a fait donner pour le foutre en l'air.
Voilà, les mêmes personnes.
Oui, mais enfin, c'est normal en droit administratif.
C'est assez cocasse quand même.
Oui, c'est complexe, mais c'est normal. Pourquoi ? Parce que on sait qu'en droit public, c'est quoi le principe ? L'État, les administrations, l'administration centrale, les administrations déléguées, les agences et les établissements publics ont un droit spécial qui les couvre, le droit administratif. Et donc, ont des prérogatives dérogatoires du droit commun. Oui. Donc, il est normal que la puissance publique, qu'elle s'incarne directement dans l'administration, dans un ministère, dans une agence déléguée ou dans un établissement public, protège les ayants droit, les usagers, mais les agents, contre des prérogatives qui sont dérogatoires du droit commun. C'est cette fameuse formule juridique. Les administrations, les établissements publics disposent d'un droit exorbitant du droit commun. Donc il est normal qu'on soit protégé des excès de pouvoir. Donc tout ça, c'est assez cohérent. Et surtout, ce que l'on voit là, c'est que c'est l'issue d'une longue bagarre en date de fin 2020, hein, parce que c'est fin 2020, et qui là, bon, quand même est couronné de succès. Et l'on voit surtout que pour la première fois en psychiatrie, le défenseur des droits reconnaît le statut de lanceur d'alerte à un psychiatre chroniquement opposant, qui d'ailleurs est très pro-psychanalyse, etc. Hein,
Oui, il est plutôt dans le domaine de la psychothérapie institutionnelle,
oui,
c'est ça.
Oui.
Mais avec quelque chose même de plus progressiste, je dirais, même que la psychothérapie institutionnelle.
Contestataire.
Oui, voilà.
Contestant le système. Dans un état d'esprit connexe d'une certaine antipsychiatrie des années 70. Mais clairement, Mathieu Bellesen s'est distingué de ses collègues de mobilisation là-dessus en disant que pour lui, ça ne posait pas de difficulté que le droit soit utilisé comme outil pour les droits des patients, pour la mise à effet des droits des patients. Il nous a d'ailleurs rejoint là-dessus, hein, puisque c'est un donateur. Alors, donc il s'est séparé là-dessus de ses collègues, de l'ancien collectif des 39, dont il avait été un membre fondateur. Ce que je vois surtout, c'est l'impact politique. Alors, Le Monde a consacré une tribune très apologétique, très héroïsant Mathieu Bellassène, mais ça, l'héroïsation du personnage qu'on met en avant, etc., ça, c'est la tactique habituelle. On veut des héros à mettre en avant au niveau des médias. Ce qu'on voit surtout, et je lis l'adhésion du Défenseur des droits comme étant l'affirmation claire que sur la question psychiatrique, le Défenseur des droits, le Contrôle général de la privation de liberté, mettent le point sur la table et disent non, il faut des contre-pouvoirs. Sur la question psychiatrique, on peut aller très loin dans l'anéantissement, le déni de l'humanité même des patients. On peut aller vraiment très loin, la Deuxième Guerre mondiale l'a prouvé, et notamment le tribunal de Nuremberg, sur le programme Action T4, sur l'euthanasie, l'hygiène sociale, l'extermination des anormaux en Allemagne, mais également en Europe centrale. J'ai vu là-dessus, on va revenir sur la question de l'aide à mourir, les institutions psychiatriques sont parmi les institutions de France où l'on laisse libre cours jusqu'au dernier degré à la déchéance de l'humanité. Donc qu'il y ait affirmation par des organismes de contrôle qu'il y a un contre-pouvoir nécessaire, c'est bienvenu. Et cette décision, elle n'est pas prise à n'importe quel moment, puisque la décision du Défenseur des droits de reconnaître à Mathieu Bellassène le statut de lanceur d'alerte est prise le 7 juin 2024. 7 juin 2024, mais attendez, au mois de novembre, aux USA, et les USA... sont pour nous, en Europe, ce qui se passe politiquement aux USA, c'est très important, puisque depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe est satellisée par rapport aux USA. L'Europe de l'Ouest a été satellisée, il faut être clair, les accords de Yalta, Potsdam, etc., voyons, Berlin, etc. Donc, on est quelques mois avant l'élection de Donald Trump, et avant le fait que les dirigeants américains donnent la pente aux dirigeants d'extrême droite en Europe pour prendre le pouvoir. Bien. Donc cette décision est à prendre dans ce contexte. Et elle est l'affirmation, avec la série d'enquêtes publiées par Le Monde sous la signature de Luc Brunner, qu'au niveau d'un organe de presse comme Le Monde, la question psychiatrique est prise au sérieux. Alors, certes, pour Mediapart, c'est une paire de manches, Mediapart a ouvert le club, ce qui est une très bonne chose. On sait pour Mediapart, pour la rédaction en chef de Mediapart, que pour eux, de par les logiques syndicales, la psychiatrie, c'est compliqué pour eux, donc on n'avance à pas compter, mais le club est ouvert. Bon, donc alors, il y a donc cela. Alors, ce que je pense utile, c'est... de lire une partie de l'article du Monde de Luc Brunner. Alors son titre, c'est le 19 février, « Le psychiatre Mathieu Bellassène réhabilité après une mise à l'écart pour avoir dénoncé l'enfermement de patients pendant la pandémie de Covid-19 ». Après 3 ans de procédure, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé une sanction disciplinaire déguisée visant le médecin. En fait, c'est l'affirmation d'un front. Les médecins des hôpitaux sont en quelque sorte juridiquement autorisés comme cela, et par le Défenseur des droits, à s'opposer à l'administration. Et j'ai vu d'autres exemples, surtout sur des patients médico-légaux, où les psychiatres et les équipes s'opposent à des maintiens SDRE médico-légaux, notamment de l'administration, qui leur paraissent injustifiés, en aménageant les conditions de suivi. Donc finalement, Mathieu Bellassène a subi un règlement de compte. Alors, une décision réparatrice. Le Défenseur des droits a indiqué sa conviction que Mathieu Bellassène a fait l'objet de mesures de représailles après avoir lancé une alerte dans les conditions prévues par la loi en mai 2020, lors du premier confinement. Les signalements au moment des faits ont été réalisés de bonne foi, sans aucune intention de nuire ou autre intérêt que celui de l'intérêt général des patients, souligne encore l'institution, reprenant les critères très stricts prévus par la loi pour accorder le statut juridique de lanceur d'alerte. Cette reconnaissance de la justice l'a apaisé. Le docteur Mathieu Bellassène avait besoin d'être apaisé. Généralement, c'est à nous qu'on dit, mais cela vous apaise ? Oui, docteur, je suis apaisé, oui. Je suis pacifié, attendez. Oui. Cette reconnaissance de justice l'a apaisé, même si l'hôpital a annoncé faire appel. Il parle de son honneur retrouvé et d'une décision réparatrice. J'espère, Mathieu Bellassène, citation, que cela fera jurisprudence pour le droit des patients, mais pour ceux qui dénoncent les abus de la part des directions et des soignants, et que ces personnes puissent être protégées. Dominique Simoneau, l'actuel contrôleur général des lieux de privation de liberté, abonde. Il a dénoncé des faits scandaleux. Heureusement que la justice l'a reconnu. Une plainte contre X au pénal pour harcèlement moral a été également déposée en juin 2024 par l'avocate du médecin, maître Hélène Lecas, prenant relais avec Jean-Marc Panfili. Le docteur Mathieu Bellassène est rétabli dans ses droits, insiste maître Hélène Lecas. C'est un praticien qui a dénoncé une situation complètement indigne pour les malades. Il n'a fait que se conformer à son serment de médecin. Mathieu Bellassène, qui n'a jamais cessé de s'engager, il a publié en 2023 un manifeste « Abolir la contention » chez Libertalia, contre la contention mécanique utilisée de façon régulière dans une partie des hôpitaux psychiatriques français, veut y voir un signe plus large pour la psychiatrie face à la culture de l'omerta qu'il peut y avoir dans les lieux psychiatriques. C'est une petite pierre à l'édifice pour briser le silence. Alors, moi qui ne suis pas optimiste sur ce qui se passe à l'avenir et à partir de la lancée actuelle, je pense qu'il y a là néanmoins... Et c'est pour ça, je pense qu'il faut dire, l'avenir est ouvert. L'élaboration de contre-feux suffisamment insistants, juridiques, etc., pour que des luttes, quand même, puissent se déployer au niveau même des patients et ex-patients, alors qu'on sait que le public que nous formons est un public quand même très fragile, très susceptible de répression, très susceptible d'être dégagé, discrédité, ridiculisé, mis de côté, et que cette protection par un ensemble de professionnels qui, eux, peuvent servir de pare-feu est quand même très importante. Évidemment, à condition que l'autonomie des usagers et des personnes en question soit préservée. C'est toujours la même question. Les alliances avec les professionnels ne doivent pas devenir des tutelles. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Before they're allowed to be free, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see the answer? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Before he sees the sky, how many ears must one person have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Radio Libertaire 89.4, La Voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, toujours avec André Bitton du CRPA. Et nous abordons donc la question de l'aide
à mourir.
À mourir.
Alors, il était question depuis 2024 de légaliser l'euthanasie et en même temps d'avoir dans le même texte de loi une amélioration sur les dispositions sur les soins palliatifs. Bien. Et ce texte qui avait été amendé au-delà du raisonnable, hein, peut-on dire, au mois de mai, au mois de juin, avant la dissolution, en 2024, avait finalement inclus sur des amendements de parlementaires bien intentionnés, ne se rendant peut-être pas compte de ce qu'ils légalisent, de ce qu'ils entendaient légaliser, avait inclus parmi les personnes habiles à demander l'euthanasie les personnes avec handicap mental et handicap psychique très avancé, incurabilité, ouvrant la porte ainsi à ce qui a été légalisé tant en Belgique qu'au Québec, à ce que des gens en impasse thérapeutique, bien, très chronique, subissant une condition désespérante, voire même abandonnée, refusée des soins, hein, et rejetée de soins corrects, hein, et s'étant considérablement aggravée, puissent demander, aussi bien pour des raisons d'économie d'ailleurs, ou poussées par leur environnement, hein, à bénéficier, entre guillemets, d'une euthanasie. Donc il y a là quelque chose de proprement scandaleux qui a commencé... Alors, les dénonciations ont fini par fuser, hein, finalement. Et ça n'est pas venu n'importe comment, c'est venu d'un secteur précis du handicap, à savoir les centrales du handicap. L'UNAPI et l'UNAFEM se sont positionnés contre, quand même, hein, alors que sur le champ handicap somatique, non, ils étaient plutôt favorables. Hein, les représentants sont plutôt favorables. Mais il faut savoir ce que c'est que les représentants du champ du handicap somatique. Hein, c'est, je veux dire, les gestionnaires du handicap, c'est pas rien. Par exemple, pour l'APF. Mais par ailleurs, plus spécifiquement, pour les personnes concernées elles-mêmes par la maladie mentale, alors là, les protestations y ont été, et notamment, je pense, aux positions des dévalideuses, qui ont été très, très... moi, j'ai fait savoir au journaliste de Mediapart qui était ma position, je suis radicalement opposé à ce que soit inclus dans une légalisation de l'euthanasie les personnes avec handicap mental et handicap psychique, pour une raison très simple que souligne cette dépêche de Spi Média du 18 février, qui est que pour des raisons d'économie, pour des raisons de poids mort, pour des raisons d'environnement, de très vive ségrégation, les uns les autres, on a tous connu, d'ailleurs surtout les handicaps, hein, mais en particulier sur handicap mental et handicap psychique. On a tous connu, un, si on avait su, on ne t'aurait pas mis au monde. Deux, tu vois bien combien tu nous coûtes. Trois, tu es un point mort pour la société, etc., etc. Ou quatre, tu peux te suicider, hein, si tu veux. Moi, j'ai eu les gens de ma famille qui m'ont sorti dans le huis clos familial, cette phrase scandaleuse, j'avais 39 ans, on aurait préféré que tu te suicides, mais comme tu ne l'as pas fait, on te finance. Donc moi, je pense que ce sera tout.
Oui, des choses agréables comme ça.
Oui, c'est roboratif. Alors, tout le monde n'a pas la rage au bide, ce qui est mon cas. Et nonobstant le fait que la France a inventé, semble-t-il, un vaccin pour la rage à la fin du 19e siècle. Notre célébrissime Pasteur. Mais bon, je veux dire, ce genre de gracieuseté, ça va 5 minutes. Hein. Ça va d'autant plus qu'on sait que dans les institutions psy en périphérie, les patients sont dosés, maltraités, méprisés et refusés de soins à tel point que la surmortalité est énorme sur le handicap psychique. Bien. Bien. Et d'autre part, historiquement, la France n'a séparé le handicap mental du handicap psychique que par la législation du février 2005 sur le handicap, puisqu'auparavant, c'était une seule et même catégorie.
Ah oui,
c'est à savoir, la loi de 1975 ne faisait pas la différence. C'est la loi de février 2005 sur le handicap, en général, qui a séparé, avec la légalisation des groupes d'entraide mutuelle, le handicap mental du handicap psychique. Et on aurait mieux fait de considérer qu'il ne s'agissait pas de handicap psychique, mais de pathologie, pour consacrer l'aspect évolutif des maladies. Mais ça, c'est les définitions françaises du handicap, ça va. Donc, on en est à ce que, finalement, sous la poussée, le militantisme du député Falorni des Deux-Sèvres, franc-maçon, très chaud partisan de la légalisation de l'euthanasie, qui avait fait rédiger une proposition de loi au moment de la dissolution, du mois de juin, du 9 juin 2024, qui avait chanté court, tout court, le projet de loi sur, sur l'aide à mourir qui a été purement et simplement interrompu.
Oui.
Et on a appris d'ailleurs, alors il a fait une proposition de loi pour repartir au niveau d'une initiative parlementaire dans la nouvelle législature et que le débat reprenne et l'adoption reprenne.
Mmh.
Bien. D'ailleurs, on avait appris que vers mi-juin, au moment de la dissolution, que le président de la République, puisque un projet de loi, c'est une initiative parlementaire, c'est une initiative gouvernementale.
Oui.
Le projet de loi, c'est le gouvernement qui présente un projet de loi, l'inscrit à l'Assemblée nationale,
oui, oui,
etc. Une proposition de loi, c'est une initiative parlementaire.
Oui.
Et là, il s'agissait d'une proposition de loi. Eh bien, le président de la République, guidé par un certain catholicisme dominant la conférence des évêques, etc., était opposé à ce qui s'était passé au mois de mai et juin au Parlement, à savoir qu'il y avait une inclusion des personnes avec handicap donc il était en fait ce qu'ils avaient vu dans le projet de loi initial, le projet de loi gouvernemental, c'était de légaliser comment dire l'euthanasie, de légaliser des modalités d'euthanasie pour des handicaps somatiques.
Oui.
Les handicaps somatiques, et ne présentant pas ce tableau institutionnel que nous on connaît.
D'accord.
Donc, le député Falarni a remis cela, et finalement, cette proposition de loi ou ce projet de loi, on ne sait pas encore, doit revenir à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale au mois de mai.
Mmh.
Là-dessus, le Premier ministre, tenu également par un certain catholicisme, a entendu et imposé contre l'avis de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui est très favorable à l'égalisation de l'euthanasie, a entendu séparer en deux les textes, un texte sur les soins palliatifs, un autre texte sur l'aide à mourir à proprement parler, en séparant les deux textes et en disant ces deux textes seront examinés dans la même session au Parlement, mais selon deux textes distincts, de sorte qu'on ne confonde pas les soins palliatifs et l'aide à mourir. Là-dessus, OSPI Média fait part qu'il y a eu une enquête et une étude qui a été publiée par la Fondation pour l'innovation politique sur les coûts économiques de l'aide à mourir.
Oui.
Et on s'aperçoit que il y a des difficultés de fonctionnement dans nombre de centres de soins palliatifs, qu'il y a des déserts médicaux, que les soins palliatifs, on n'y accède pas sur tout le territoire, et que le risque qui est encouru, et c'était souligné par des économistes en santé, ça a été souligné par le professeur Sicard, l'ancien président du Comité consultatif national d'éthique, c'est que là où on n'a pas le dispositif de soins palliatifs, là où l'hôpital est surbooké, là où des cas sociaux ne sont pas admis, puisque quand on est étiqueté psy, etc., on n'est pas nécessairement admis à les hôpitaux.
Oui, parce que les soins palliatifs, ça nécessite quand même du personnel, une attention soutenue, des moyens.
C'est ça.
Oui.
Eh bien, là, donc, où il n'y a pas l'infrastructure en la matière d'accompagnement en soins palliatifs, à ce moment-là, on aiguille la personne vers signer le formulaire.
Oui.
Exit. Et ça fait penser au film Soleil Vert, ce film d'anticipation né dans des années 80, qui avait été fait sur la base d'un roman d'anticipation où il y avait dans des USA, Chicago, vers 2020, 2030, 2040, une nourriture sur des plaquettes tout à fait artificielles, issues du soja, etc. Et d'autre part, lorsque le menu peuple et les habitants des jungles urbaines en ont marre de supporter tout cela et se disent on va dans un centre d'euthanasie et l'on demande à baigner dans une musique douce, à être dégagé des effectifs.
Une mort organisée.
Voilà, c'est ça. Alors, en l'espèce, quand on connaît les choses tout à fait sordides qui ont lieu dans les institutions, en périphérie des institutions, mais pas que dans les institutions psychiatriques, également dans les ESMS, dans les établissements sociaux et médico-sociaux, de type ESAD, de type FAS, de type MAS, les maisons équipées spécialisées, là où on parque des personnes avec handicap psychique, eu égard au fait que des gens démarrent une carrière de patient lourd psychiatrique dès le sortir de l'enfance, et qu'on ne sait pas, les gens sont très rapidement chronicisés, deviennent en 10 ans de temps des déficients en kystés. On ne sait pas si de meilleures prises en charge n'auraient pas permis de faire que ces personnes vivent normalement et puissent sortir de la chronicité et être des individus XY lambda. Il y a une fabrique.
Il y a le film de Sandrine Bonner.
Oui. Elle s'appelle Sabine.
Sabine, oui.
Qui est remarquable. Ouais. Qui est remarquable. Où en plus, j'avais vu le débat en chaîne de télé entre Sandrine Bonner, qui en plus n'a rien à voir avec une star sexy, machin. Je veux dire, elle est très, très correcte. Et le président du syndicat des psychiatres des hôpitaux, Jean-Claude Pénochet, de l'époque, s'était empaillé devant et Sandrine Bonner avait très très bien tenu. Oui, oui, tout à fait. Mais moi, personnellement, je ne cache pas, et je soutiens même, c'est une partie de ma mobilisation, que j'ai eu cette chance de pouvoir échapper au filet de la psychiatrie jusqu'à la trentaine, et que si j'étais tombé plus tôt, je pense qu'ils auraient fait de moi un déficitaire. J'avais ce qu'il fallait pour prendre cette pente déficitaire. J'ai connu des gens qui, en 10 ans de prise en charge, ont viré déficitaire et sont déficitaires, des déficients. C'est pour de bon.
Alors, à propos de cette... c'est pas une proposition de loi du gouvernement, mais un projet de loi de...
Alors, on ne sait pas encore si... c'est pas le projet de loi tel qu'il a été court-circuité le 9 juin qui va être mis sur la table, ou bien si c'est via la proposition de loi de Falorni. Ce qu'on sait, c'est que l'opposition est claire, nette et précise. Entre le Premier ministre François Bayrou, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui n'est pas d'accord avec le fait que le texte qui sera présenté au mois de mai sera scindé en deux. Les soins palliatifs d'un côté, l'aide à mourir de l'autre.
Parce qu'il y avait une contradiction aussi qui avait été pointée, une contradiction légale qui était le fait que, concernant les personnes considérées comme handicapées psychiques, c'était le fait que des personnes en soins sous contrôle, c'est-à-dire en soins sans consentement, pouvait consentir à mourir.
Alors évidemment, moi j'ai soulevé cet argument d'abord, tout de suite, parce que bon, je connais quand même bien le terrain, un peu quand même sur les soins infirmiers sans consentement. Le paradoxe, c'est bien cela, mais c'est vrai aussi pour le handicap mental, puisque généralement, les personnes en question sont sous mesure de protection. Curatelle, tutelle, ou quand il n'y a pas de mesure de protection, il y a un accompagnement quelconque. Alors donc, on considère que des gens qui ne sont pas compétents pour consentir aux soins, pour être compétent pour demander à sortir du règne vivant.
C'est ça, voilà.
Alors moi, je trouve qu'il y a là, d'ailleurs, les études québécoises sur le Québec et sur la Belgique, mais surtout sur le Québec, ont indiqué que les premières années d'exercice de cette légalisation, ça allait, mais au fur et à mesure que le temps passe, c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit que les admissions à l'aide à mourir de personnes présentant, qu'on appelle des cas sociaux, qu'on rubrique comme cas sociaux, comme cas psychiatriques, sont en hausse continue et que l'on est en la direction d'une élimination volontarisée d'un ensemble de personnes qui sont exclues des circuits. Et quand on sait que lorsqu'on a l'étiquette psychiatrique, on a un mal considérable à accéder à des soins somatiques corrects, notamment les soins hospitaliers, ça pose problème. Il faut savoir que les alertes ont été lancées sur les services d'urgence en France. Les urgentistes ont dûment fait savoir, et ça a été répercuté, ne nous envoyez pas de patients avec un profil psychiatrique. C'est risqué au niveau des services d'urgence. Alors, on a là, et surtout, j'ai pas pris le temps encore de la lire à fond, mais je l'ai quand même mis de côté. Je vois cette dépêche de Spimedia. Estimation, donc c'est une dépêche du 18 février 2025. Caroline Cordier, il me semble. Le groupe de réflexion Fondation pour l'innovation politique, Fondapol, apporte un autre angle de réflexion sur l'aide à mourir, autour des non-dits économiques et sociaux. Le rapport les évoquant est signé par le docteur Pascal Favre et le docteur en droit Yves-Marie Doublet, les auteurs passent en revue les difficultés du système de santé et d'accès aux soins, notamment pour les personnes âgées ou en situation de handicap. Ils pointent le soutien des complémentaires santé à l'ouverture d'un droit à une aide à mourir et mettent l'accent sur l'effet anxiogène sur les soignants de l'évolution de la loi. Ils abordent aussi les potentielles économies sur les dépenses de santé en cas de mise en œuvre du suicide assisté et de l'euthanasie. Ce calcul ne tient pas compte de l'arrêt du versement des pensions de retraite ou des éventuelles allocations. Il s'appuie sur les estimations de l'Inspection générale des affaires sociales en 2017 sur les soins palliatifs et la fin de vie à domicile, avec une correction d'un peu moins de 20% correspondant à l'inflation. Si la France avait le même taux de recours à la mort provoquée que le Québec, 7,3% des décès, 7,3%. un taux qui a été atteint après plusieurs années de mise en œuvre. Cela représenterait 46 000 décès, soit 177 euthanasies par jour ouvrables, selon leurs calculs. La dernière année de vie représente en moyenne 31 000 euros de dépenses de santé par personne. C'est la plus coûteuse. En anticipant d'un an le décès, si on coupe court à un an de fin de vie, l'économie totale liée à ces 46 000 décès serait de 1,43 milliard d'euros.
Intéressant.
Les choses sont dites. Ce montant comprend des soins spécifiques à la fin de vie pour un montant de près de 700 millions d'euros. Sur la base des estimations de l'IGAS et pour le même nombre de décès, l'avancée du décès d'un mois, le dernier mois de vie concentrant une part importante des dépenses, représenterait 268,5 millions d'euros. Au-delà des personnes en fin de vie, la légalisation de la mort provoquée soulève la question de son application à terme aux affections de longue durée, comme il est question de réformer les ALD, dont le coût est estimé à 123 milliards d'euros. Poursuivent les auteurs. Ils rappellent que les députés ont inscrit le critère de phase avancée ou terminale d'une maladie incurable avant la dissolution, ce qui est le cas des pathologies en ALD, pour remplacer le pronostic vital engagé à court terme ou à moyen terme du projet initial. C'est-à-dire qu'au cours des débats, le projet de loi gouvernemental prévoyait qu'on puisse accéder à l'aide à mourir lorsque le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme. Ça a été remplacé par phase avancée ou terminale. Bon, on a eu le professeur Sicard vent debout sur une récente émission de LCP sur l'aide à mourir avec une spécialiste des soins palliatifs disant, écoutez, raisonnablement, le dispositif des soins palliatifs a été sous-développé en France. Vous ouvrez une porte qui est considérable. Et cette porte, c'est celle de l'élimination volontaire des personnes avec handicap, et plus précisément des cas sociaux et des handicapés psychiques. C'est juste pas supportable. Alors moi, ce que je prône, et ce qu'on peut prôner, c'est que dans le texte sur l'aide à mourir, s'il est présenté au mois de mai, espérons qu'il y ait une dissolution au mois de juin, espérons, sinon que le handicap psychique et le handicap mental soient retirés de ce texte. Tout simplement retirés.
Oui.
Simplement.
Company store. You load 16 tons, and what do you get? Whoa. Another day older, deeper in debt. Oh, I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel, I walked through the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, and what do you get?
Another day older and deeper in debt.
St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. You load 16 tons, and what do you get? Whoa.
you see me coming, you better step aside. A lot of men didn't, and a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you,
in the left one will.
Company.
Radio Libertaire 89.4, on vient d'entendre Southern Rised, 16 Tons. Et c'est toujours l'entonnoir sur Radio Libertaire, émission critique de la psychiatrie, aujourd'hui avec André Bitton du CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie.
Alors donc, une nouvelle juridique assez importante dans l'affaire de la Dépakine, précision sur l'étendue de la responsabilité de l'État, date aux actualités 3 février. L'affaire de la Dépakine, c'est cet antiépileptique qui a été distribué largement à main nue à des personnes ayant des crises d'épilepsie, plus précisément des femmes, lesquelles ont déclenché des grossesses et mis au monde des personnes avec des malformations, des atteintes, notamment l'autisme. Et il a pu être mis un lien de cause à effet entre l'administration prolongée de cette molécule, valproate de sodium, à ces personnes et les malformations en question. Donc une action de groupe a été lancée. Les actions de groupe en France, c'est pas la joie, hein, c'est très compliqué. Des milliers de personnes sont greffées et sur cette action de groupe. Et à partir de là, bon, l'action juridique a été lancée, la dénonciation médiatique également, et l'Agence nationale de sécurité du médicament, il y a une bonne dizaine d'années, a mis sous surveillance les traitements basé sur le valproate de sodium. Or, ces traitements, le valproate de sodium, c'est le principe actif du dépamide pour les troubles maniaco-dépressifs devenus troubles bipolaires dès les années 60. C'est le dépakote qui a été lancé à partir des années 80. C'est énormément de gens qui ont subi cette mise sous traitement, sachant que sur les caractéristiques psychiatriques, alors là, il a été étouffé, le scandale a été étouffé. On n'a pas parlé des posologies psychiatriques, hein, on a parlé juste de l'antiépileptique. Hein, les malades mentaux, on s'en fout. Oui. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que les traitements psychiatriques à base de valproate de sodium ont cette particularité que ce sont des traitements avec addiction, qui déclenchent une addiction, et qu'en fait, on ne peut pas les arrêter comme cela. Et les personnes qui ont eu ces traitements ont eu des déconvenues majeures, plus graves que celles des neuroleptiques, hein, proprement parler, à savoir de décompenser des phases maniaques et des phases délirantes sans contrôle, sans pouvoir se contrôler. Si bien qu'on a vu ces messieurs-dames des institutions dire que les phases délirantes et maniaques sur sevrage faisaient partie de la maladie des gens, sans que soient incriminés les traitements. Et l'on a dit à toutes ces cohortes, cette énorme quantité de gens, ce traitement est à prendre à vie. Bon, ce qui est vraiment... c'est complètement fou, ce truc. Et donc, en fait, bon, moi, j'ai connu une personne qui a eu à Péré-Vaucluse un thymorégulateur sur plusieurs années, et qui a eu une grossesse, une femme qui a eu une grossesse, un peu tardive d'ailleurs, et son fils, son dernier enfant, a développé un autisme non-verbal. Voilà. Avec prise en charge à partir de l'âge de 10 ans en institution. Mais il est évident que des personnes ayant un suivi psychiatrique long, important, ces personnes n'étaient pas spécialement délirantes, c'était plus actuellement une personne laissée pour compte, hein, bien, ne seront pas crédibles pour dénoncer cela. Et donc on a là, à l'intérieur même de ces actions, de ces dénonciations, de ces procédures, une ségrégation très vive en faveur d'une quantité de patientes contre une autre quantité de patientes, contre une autre catégorie de patientes. Donc en l'espèce, la Cour administrative d'appel de Paris, par 5 décisions du 14 janvier 2005, a reconnu la responsabilité de l'État en raison d'une carence fautive de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, la ANSM, dans sa mission de contrôle de l'information incluse dans l'autorisation de mise sur le marché de la dépakine. Donc, ça veut dire que, en fait, les laboratoires présentent une molécule, avec un certain prix d'ailleurs, et c'est eux qui fixent le prix, aux autorités ministérielles, en l'espèce à l'ANSM. C'est une agence, maintenant ces agences ont une autonomie juridique, c'est quand même douteux. Et cette agence et sa commission d'attribution de l'AMM se réunissent et attribuent ou pas l'autorisation de mise sur le marché. Alors on sait qu'il y a des conflits d'intérêts gigantesques, qu'il y a de la corruption de tous les côtés, que c'est les firmes qui fixent le coût. Et lorsqu'elles introduisent un nouveau médicament, il est très coûteux pour un service rendu pas forcément efficace.
Et puis c'est la sécurité. Elle évite aussi de mentionner certains effets indésirables, justement.
C'est même tenu secret, normalement secret. Ça peut être même considéré comme tenu secret au même titre. À telle enseigne que celles et ceux qui sont mis au courant et qui s'efforcent de le dénoncer encourent tous les risques. Tous les risques. Moi, j'ai entendu parler de gens qui étaient tentatives d'assassinat et autres, mais c'est épouvantable. Donc la Cour administrative d'appel de Paris reconnaît donc la responsabilité de l'État. Mais 5 arrêts de la Cour elle-même marquent un nouvel épisode dans l'affaire de la dépakine. Les juges d'appel viennent en effet de se prononcer sur des recours de familles de victimes cherchant à mettre en cause la responsabilité de l'État en raison de la faute que l'État aurait commise dans l'exercice de ses pouvoirs de police sanitaire relatifs aux médicaments. Dans ces différentes affaires, les patientes s'étaient vues administrer de la dépakine lors de leur grossesse. Ce médicament commercialisé depuis 1967 et depuis 1973 par le laboratoire Sanofi contient du valproate de sodium, il est surtout utilisé dans le traitement d'épilepsie. Il l'est aussi dans celui des troubles bipolaires. À partir des années 80, il est admis que l'exposition in utero au valproate de sodium peut être à l'origine de malformations congénitales. Au début des années 2000, un lien est également établi entre cette exposition et l'existence de troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant. Lorsque l'autisme et ses différentes variantes étaient mises à la mode à partir de là. L'affaire de la dépakine est à l'origine d'un abondant contentieux, surtout sur les volets civils et pénal. Elle a même donné lieu à une première action de groupe en santé, intentée par l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant APESAC, cette association, sur la base du dispositif législatif du 26 janvier 2016, loi de modernisation du système de santé, qui avait légalisé l'action de groupe en matière de santé. Des actions en responsabilité ont été également exercées devant la justice administrative visant à obtenir la condamnation de l'État à raison d'une carence fautive en la matière. La Cour administrative d'appel de Paris est ici saisie d'appels dirigés contre des jugements du TA de Montreuil, le tribunal administratif. Il lui revient de préciser les conditions d'engagement de la responsabilité de l'État au titre de sa mission de pharmacovigilance. Alors on sait qu'il y a quand même une avancée qui a été faite sur la pharmacovigilance. On trouve maintenant sur les sites gouvernementaux, sur les sites internet, des moyens pour signaler des incidents de pharmacovigilance. On peut signaler des incidents de pharmacovigilance par internet, à l'heure actuelle depuis pas mal d'années, hein, ce qui est quand même intéressant. L'articulation entre le dispositif législatif d'indemnisation amiable, l'ONIAM, des victimes de la dépakine et le recours en responsabilité devant le juge administratif. Alors face à l'ampleur des dommages corporels, parce que c'est des milliers, c'est des centaines de milliers de personnes, hein, qui... et dans le prolongement, parce que ce qu'il faut voir, c'est que ce qui passe au contentieux, si une brèche est ouverte au contentieux, ça ouvre la porte à ceux qui vont simplement se pourvoir devant l'office d'indemnisation, hein, hors contentieux. Hein. Face à l'ampleur des dommages corporels et dans le prolongement d'un rapport de l'inspection générale de l'IGAS de 2016, le législateur est intervenu pour mettre en place un dispositif d'indemnisation amiable des victimes du valproate de sodium, la procédure est menée sous l'égide de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, l'ONIAM. La procédure, le fonctionnement de ce dispositif dont l'objectif était pourtant de faciliter l'indemnisation des victimes s'avère décevant. C'est très compliqué. Il faut prendre un avocat. Et donc, au nom, il y a eu un rapport là-dessus, au nom de la Commission des finances du Sénat, déposé le 28 septembre 2022. Cette procédure n'a heureusement pas un caractère exclusif. On peut très bien aller devant l'ONIAM et poursuivre une procédure. Il y a un article du Code de la santé publique qui prend effectivement soin de préciser que le dispositif législatif d'indemnisation peut trouver à s'appliquer sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun. La situation est particulière car les parents ont accepté des offres d'indemnisation amiables faites par l'ONIAM pour l'État, ce qui les a conduits à conclure des protocoles transactionnels, ce qui arrête la procédure. C'est-à-dire que si on signe un accord amiable avec l'ONIAM pour arrêter l'indemnisation à tel montant, alors là, bon. Donc il y a eu l'autorité de la chose jugée, de la transaction, ce qui explique qu'au point 8 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel indique que la signature par les intéressés de ces protocoles d'indemnisation et l'acceptation des offres amiables faites par l'ONIAM pour l'État, qui respectent les conditions de licéité et de respect de l'ordre public, comportent des concessions réciproques et équilibrées et visent à la réparation intégrale des préjudices subis, et cela emporte nécessairement renonciation à toute action indemnitaire en réparation des préjudices subis du fait de la faute de l'État dans l'exercice de ses pouvoirs de police sanitaire, y compris ceux que l'ONIAM a refusé d'indemniser. C'est-à-dire qu'en fait, le protocole transactionnel, ce sur quoi les personnes ont signé, va au-delà même de ce qui est signé. C'est bon. Pour le reste, les victimes ont la possibilité de se tourner vers le juge sur la question de l'engagement de la responsabilité de l'État. Au moins, reconnaissez que l'État a été responsable pour défaut de précaution. Ouais. L'engagement de la responsabilité de l'État pour faute au titre de l'activité de pharmacovigilance. Alors là-dessus, on rentre dans des casuistiques passablement compliquées sur la responsabilité sans faute, la responsabilité pour faute, etc. Les juges d'appel considèrent que la responsabilité pour faute de l'État dans l'exercice de ses pouvoirs de police sanitaire relatifs aux médicaments est susceptible d'être engagée à titre liminaire. On rappelle que la police du médicament a été transférée en 1993 du ministre de la Santé au directeur général de l'agence du médicament, remplacée en 1998 par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à laquelle succédera l'agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. En tout état de cause, dès lors que les décisions du directeur général de l'agence sont prises au nom de l'État, c'est bien la responsabilité de ce dernier qui doit être recherchée. Oh, ça, c'est casuiste. Pourquoi ? Parce que si on prend la HAS, par exemple, la HAS qui est une des agences de l'État, ministère de la Santé, a l'autonomie juridique. C'est-à-dire que si l'on veut attaquer une décision de la HAS, on attaque cette décision prise par la HAS distinctement de l'État. Et en fait, c'est une agence du ministère. Alors bon, c'est piégé, hein, c'est piégé au niveau des contentieux. C'est-à-dire, ils sont débrouillés pour que le pouvoir de décision de l'État, ministère de la Santé, soit délégué à des agences à qui on accorde de plus en plus d'autonomie. Ben, ça piège les requérants. Ça piège les requérants, ça complexifie. Alors, en premier lieu, la suffisance d'une faute simple dans ce domaine pourtant situé au carrefour des activités de contrôle et de police était évidente au regard de la solution adoptée par le Conseil d'État dans l'affaire du médiateur. Les juges d'appel adoptent d'ailleurs, et comme eux, avant eux ceux du tribunal administratif de Montreuil, une motivation similaire à celle des décisions du 9 novembre 2016, qui reprenait elle-même celle de l'affaire du sang contaminé. C'est ainsi qu'au regard de la nature des pouvoirs détenus par les autorités en charge de la police sanitaire relative aux médicaments et des buts en vue desquels ces pouvoirs leur ont été attribués, la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée pour toute faute commise dans l'exercice de ses attributions. En second lieu, les décisions viennent alimenter une nouvelle fois le contentieux de la carence fautive. Dans ces affaires, la question centrale est celle de la suffisance de l'information délivrée aux patientes sur les risques encourus par la prise de dépakine pendant la grossesse. Les informations relatives aux médicaments passent principalement par le biais de deux documents fournis par le producteur du médicament, titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, accordée ici par le directeur général de l'agence. Il y a d'abord le résumé des caractéristiques du produit qui est destiné aux médecins prescripteurs, et il y a ensuite la notice à l'attention des patients, laquelle doit être établie en conformité avec le RCP, des recommandations. De manière logique, ces deux documents qui accompagnent l'autorisation de mise sur le marché se doivent d'être en adéquation aux données acquises de la science, d'où leur caractère évolutif. Là-dessus, ce qu'on voit, c'est que depuis que le contentieux sur les produits défectueux a été développé, les firmes pharmaceutiques ont adopté, de même que les chirurgies, au niveau des blocs chirurgicaux, ils ont adopté une technique qui coupe court au contentieux, à savoir qu'ils bourrent les recommandations que tu lis quand tu ouvres une boîte de médicaments, ils en mettent des kilomètres, c'est illisible, de sorte qu'en cas de défectuosité, vous êtes informé. De même, si tu veux passer une opération chirurgicale, avec le développement des contentieux sur des opérations chirurgicales, on te fait signer avant l'anesthésie, notamment pour l'anesthésie, parce qu'il y a des problèmes de choc anesthésie, une information détaillée, et si tu la signes pas, on t'opère pas. Voilà. C'est simple.
Oui, c'est une manière de décliner toute responsabilité.
C'est ça. C'est ça. Donc, l'utilisation perverse des percées juridiques là-dessus, c'est ça. Bon, donc là, je ne rentre pas plus avant dans la casuistique, mais moi, ce que je souligne là-dedans, c'est que si l'on faisait le décompte,